voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Qu'est-ce qui distingue l'homme des autres mammifères sur Terre ? Le rire, écrivait Rabelais au XVIe siècle. Le philosophe Descartes estimait, lui, que cette créature, la plus élevée du règne animal, devait se rendre comme maître et possesseur de la nature. Mais pour le philosophe israélien actuel Yuval Harari, le propre de l'homme, plus précisément d'Homo sapiens, tient à sa capacité à forger des récits. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien à l'écoute d'une émission de cinéma et non d'un cours de philosophie. Et nous vous proposons de réentendre l'émission consacrée au documentaire de Cyril Dion, Animal. Nous avions reçu le réalisateur à l'occasion de la sortie du film en novembre dernier. Et Animal sort en DVD ces jours-ci et est disponible sur les plateformes de location. Bonjour Cyril Dion.
Bonjour.
Et merci d'avoir fait un crochet par RFI. Je sais que vous avez un agenda de ministre ces temps-ci.
Un peu.
Vous courez d'avant-première en avant-première ?
J'en suis à 55 avant-premières là, oui. Depuis le 15 septembre. Et puis là, beaucoup de promotions, mais c'est bien ça.
Effectivement, c'est bien, puisqu'il y a 6 ans, vous réalisiez avec Mélanie Laurent le film Demain. Et déjà, enfin, vous montriez les conséquences du réchauffement climatique. Cette fois, avec Animal, vous recentrez la focale, enfin, vous braquez vos projecteurs sur la biodiversité et la 6e extinction de masse qui est à l'œuvre. Le film s'ouvre d'ailleurs sur l'image d'un batracien, le dernier mâle de son espèce.
That's what extinction sounds like. It also sounds like the revving of a chainsaw, the thump of a harpoon. And the whistling of a bullet. Extinction looks like miles of raised rainforest and oceans with more plastic than fish. It smells like car diesel and pollution. It feels like hopelessness, like the end of beauty and wonder. And it feels like my generation will be the ones observing when plastic and pollution and power have gained supremacy over all else.
Voilà, là, c'était la voix de Bella, l'une des jeunes héroïnes du film Animal. On va y revenir. Mais pourquoi, tout d'abord, Cyril Dion, vous penchez sur la cause animale ? Parce que c'est la plus urgente des priorités ?
C'est pas vraiment la cause animale. C'est-à-dire que le film s'appelle Animal, mais c'est une fausse piste. C'est plutôt pour dire qu'on va parler de notre relation au reste du monde vivant, du fait que les autres êtres vivants sont certains des animaux, mais que nous aussi, nous sommes des animaux, et que le fait de refuser cette condition, ou en tout cas de s'être fait croire qu'on n'en était pas, c'est peut-être la source du problème, à la fois du problème climatique et du problème de l'extinction de masse des espèces. Dans le film, on rencontre notamment un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, qui dit... On fait partie d'une culture qui nous a fait croire qu'on était la seule forme de vie intéressante. Et que tout le reste, les mammifères, les insectes, les forêts, les montagnes, c'était de la matière bête et méchante. Donc si c'est de la matière bête et méchante, ça veut dire que c'est un champ de ressources qu'on peut exploiter pour alimenter la chaudière de la croissance économique. Et ça nous emmène là où on en est aujourd'hui. Et lui, ce qu'il nous propose, et ce qui est un peu le but de notre voyage, c'est de reconstruire une culture des liens, des relations, et de reconstruire le récit dans lequel nous vivons.
Il propose en fait de se réensauvager. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire de se réenchasser dans le monde vivant, d'accepter qu'on est des vivants parmi les vivants, que les êtres humains ont parfois oublié que c'est grâce au monde vivant qu'ils existent. C'est parce qu'il y a le monde vivant qu'on peut boire, qu'on peut manger, qu'on peut respirer. C'est pas parce que les humains sont là que le monde tourne, c'est le contraire. Et donc se réensauvager, c'est ça, c'est se réenchasser, se réintégrer dans cette grande toile du vivant.
Se réinscrire dans le monde sauvage.
Ouais, exactement, dans le monde tout court en fait.
Mais les humains sont à l'origine quand même des ouais. cinq causes des disparitions des espèces. Il y a la perte des habitats, la surexploitation des ressources, le changement climatique, la pollution et les espèces invasives. Mmh. Et ce sont des thématiques que l'on va explorer, en fait, sans vraiment sentir le plan, mais à travers différentes rencontres, à travers différentes parties du monde.
Ben, au départ, justement, on était dans une structure qui était très didactique, où on s'était dit, bon, il y a cinq grandes causes de l'extinction, alors on va aller voir des solutions pour les cinq grandes causes. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que non seulement c'était un peu chiant, mais qu'en plus, c'était pas forcément la meilleure façon de prendre les choses. Et ce qui est devenu le fil narratif du film, c'est Bella et Vipulan, qui sont ces deux ados, qui sont les héros, et leur voyage. Donc c'est vraiment une espèce de voyage initiatique, c'est une sorte d'odyssée comme Ulysse, où ils vont se confronter à tout un tas de situations, à tout un tas de découvertes, de problématiques qui vont les faire évoluer, qui vont les faire changer. Et au fur et à mesure, effectivement, de ces rencontres, les grandes causes de l'extinction sont évoquées, bien sûr.
Alors effectivement, Bella, c'est une jeune Anglaise de 16 ans, aux longs cheveux roux, Vipulan, un Français d'origine sri-lankaise. C'est un peu vous envoyer dans le cadre.
Je m'appelle Vipulan, j'ai 16 ans. Mes parents viennent du Sri Lanka, ils sont rencontrés en France. Et on a toujours vécu à Marly-le-Roi, dans le même appart. J'ai pas énormément voyagé depuis que je suis petit. Et en général, je suis restée en ville. J'aime bien les animaux, mais j'ai pas d'animaux de compagnie, etc. Donc, en général, je les regarde, mais je les touche pas. C'est une approche assez originale et différente.
Pour apprendre, il faut avoir un système nerveux.
Je pense que comprendre, c'est tout aussi important qu'agir. On peut pas agir sans avoir compris le problème. Sinon, on pourrait agir au mauvais moment, au mauvais endroit.
Alors, on a l'impression, Cyril Dion, que Bella, elle est plutôt dans l'émotion, dans l'empathie, et que Vipulan est plutôt dans la réflexion. C'est Mais... comme ça que vous les avez choisis ? Vous avez fait un petit casting
C'était assez rapide comme casting, c'est-à-dire que c'était plutôt des rencontres. C'est un peu comme Clapiche quand il rencontre Duris à la sortie de son lycée, il dit tiens viens là toi, on va faire un film. Mais là c'était un peu ça quoi, je les ai rencontrés tous les deux et j'ai dit venez par là, on va faire un film.
Mais ils étaient déjà mobilisés.
Je les ai choisis pour ça, c'est-à-dire que là c'est pas un film sur des adolescents lambda qu'on emmènerait dans le monde, c'est un film sur deux jeunes activistes qui font partie d'une génération qui a l'impression qu'ils n'ont plus d'avenir, qui sont dans la rue, qui essayent de faire bouger les gouvernements, qui n'y arrivent pas, et qui justement, confrontés à cette limite de leur stratégie, cherchent des nouvelles voies, et à qui je propose de faire un voyage pour essayer de comprendre déjà pourquoi on en est arrivé là, et puis de trouver des horizons nouveaux. Et effectivement, je les ai choisis parce qu'ils étaient très complémentaires l'un de l'autre. Vipulan est très cérébral, très scientifique, très urbain, il regardait les animaux, comme il le dit, de loin. On le voit qu'il caresse un chat à un moment vraiment du bout des doigts. Donc Bella se fout de lui tout le temps parce qu'il y a une séquence dans le film où ils sont en voiture au Kenya avec un biologiste qui adore les chiens. Et donc il dit « Désolé, les chiens vont faire partie du voyage ». Et il y a un des chiens qui s'est assis sur Vipulan. Et donc, ça fait mourir de rire Bella parce qu'elle dit qu'il déteste les chiens. Et puis, le chien est venu exactement sur lui. Et puis, de façon très placide. Donc, ils se sont bien taquinés. Et Bella, effectivement, elle est plus sauvage. C'est-à-dire qu'à l'époque où elle vivait chez ses parents, puisque là, elle est partie pour ses études, mais elle faisait le mur la nuit pour aller dans Richmond Park, qui est un grand parc à côté de Londres, pour essayer de voir les élans et pour essayer de sentir cette atmosphère un peu étrange la nuit. Donc ce qui est pas complètement dans le tempérament de Vipulan. Enfin, en tout cas, pas à l'époque.
On a compris. Et ils ont 16 ans, tous les deux.
Ouais.
C'est un peu le portrait d'une génération que vous faites.
Oui, sachant qu'une génération, c'est jamais homogène. Donc c'est vraiment certains visages de cette génération, mais... C'est un peu le visage qu'on a vu émerger en 2018 avec Greta Thunberg et avec Louisa Neubauer en Allemagne, avec Camille Etienne en France, avec Hanouna de Wever et Adélie Charlier en Belgique. Toutes ces jeunes femmes, en fait, qui ont commencé à investir les rues, à embarquer avec eux d'autres jeunes pour dire... On ne peut pas laisser les gouvernements nous emmener vers l'abîme. On ne peut pas les laisser continuer à précipiter le monde dans le changement climatique, dans la destruction des espèces et à rendre cette planète inhabitable, mais en ne sachant pas vraiment comment faire. Et cette génération, moi, me rappelle pas mal la génération de 68. Je trouve qu'il y a une vraie continuité, en tout cas, dans leur combat et dans leur engagement politique, dans la gravité qu'ils ont et dans la maturité aussi qu'ils ont, politique, culturelle, écologique.
Cyril Dion, on fait une petite pause musicale, musicalo-ambiance de votre film Animal, parce qu'avec cette musique qui est tirée de votre film, je crois composée par Sébastien Hoeg, hein, cette musique très douce, mais qu'on voit sur des images glaçantes de plastique dans l'océan.
Chaque minute, l'équivalent d'un camion rempli de plastique est déversé dans l'océan. Et malheureusement, comme les travaux de l'ONG Tara l'ont montré, ce plastique se dissout dans l'eau, les rivières, les mers, et il se décompose en microplastique qu'on ne peut jamais récupérer. La solution ne peut pas se trouver dans les océans, elle est forcément à terre. Mais alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, par où on commence ? Apparemment, l'homme qu'on est venu rencontrer, Afrocha, lui s'est posé la même question il y a quelques années et il a trouvé une solution.
Voilà, il a trouvé une solution. Donc, évidemment, Cyril Dion, vous faites un film, donc un objet à la fois de réflexion, de pédagogie, mais aussi évidemment de divertissement. Et l'un des outils du cinéaste, c'est de jouer du décalage entre le son et l'image. Et je le rappelle, cette musique qui est toute douce, presque californienne en fait. Exactement, elle est plaquée sur des images terribles. On voit des océans mais totalement pollués, un hippocampe coincé dans un sac plastique.
Ben oui, en fait, ce contre-pied-là, il est... Enfin, moi, je trouve que c'est puissant. Plutôt que d'essayer de dramatiser des images qui sont déjà dramatiques, le fait de construire un décalage avec une musique un peu hawaïenne, on se dit waouh, c'est affreux ce que je suis en train de voir là. Et en même temps, c'est presque plus facile à ingérer et presque plus choquant avec ce décalage-là. Oui. Donc on a essayé d'user aussi de mise en scène, bien sûr.
Donc avec Sébastien Hoeg, c'est ça, vous avez...
Là, c'est Sébastien Hoeg qui a composé cette chanson, qui a composé la musique, et c'est Frédéric Achetal qui avait fait la musique de Demain qui a écrit les paroles. Et donc avec les deux compositeurs, donc il y avait Sébastien Hoeg et Xavier Polycarpe, je leur ai à la fois demandé de faire une musique justement très marquée, 60s, 70s, pour créer cette espèce de pont temporel entre ces deux générations dont je parlais tout à l'heure, mais aussi de nous donner des ambiances. C'est-à-dire que la plupart du temps, et c'était la même chose avec Frédérica pour Demain, je demande aux musiciens de composer avant pour qu'on puisse s'en servir au montage. Et je leur donne des directions pour composer, mais avec Sandy Bompard, la monteuse avec laquelle je travaille, on aime beaucoup monter en musique parce que ça imprime un rythme particulier. Et puis parce qu'on aime bien aussi que l'atmosphère musicale nous guide dans un certain nombre de constructions de séquences.
Alors pour revenir au propos, enfin au protagoniste d'Animal, Cyril Dion, donc les deux jeunes, Bella et Vipelane, les deux adolescents, donc ils sont présents sur tout le film. On vous aperçoit juste à un moment, une ou deux reprises, vous êtes complètement effacé derrière eux.
Bah, l'idée, c'est de raconter leur histoire à eux, pas mon histoire à moi. En revanche, je me suis posé la question assez longtemps de totalement disparaître ou d'être un tout petit peu là. Et effectivement, on entend ma voix à quelques reprises et on me voit de façon assez fugace dans une séquence au milieu du film dans un TGV. Et j'ai décidé d'apparaître pour que le dispositif soit transparent. Sinon, ça m'aurait semblé, en tant que spectateur, assez artificiel de voir ces deux ados voyager à travers le monde. Enfin, je me serais dit, mais ils ont piqué la carte bleue de leurs parents. Enfin, c'est quoi l'idée? Et j'aurais eu l'impression qu'on m'embobinait un peu, qu'on essayait de me manipuler. Alors que là, on dit très clairement, sans l'appuyer, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, que c'est moi qui vais les chercher, c'est moi qui les emmène. Et à un moment du film, on fait une espèce de petit bilan au milieu, justement, de ce que ça leur fait, de là où ils en sont, avec une toute petite mise en abîme pour ceux qui ont vu Demain. Hein. Les autres ne le verront pas et c'est pas grave, mais de ce qu'on avait cherché à faire avec Demain, c'est-à-dire d'aller voir des solutions en se disant « bah tiens, c'est bon, on a trouvé des solutions et ça va permettre de résoudre le problème ». Et là, Bella dit, bah, ça a l'air d'être plus compliqué que ça. Moi, je pensais qu'on allait faire ça, qu'on allait aller rencontrer des gens formidables, qu'ils auraient des solutions aux problèmes, qu'on n'aurait qu'à les montrer, que les gens les répliqueraient, et puis que, hop, pour les jeunesses. Et en fait, plus complexe.
Et là, justement, comment ça s'est passé avec eux? Parce qu'on a compris que vous allez voir à un moment donné Jane Goodall, donc une primatologue très connue. Bon, il y a eu un film sur elle avec Sigourney Weaver. Et on comprend que Bella est vraiment une groupie. Et qu'elle est très, très contente. Mais à part ça, il y a aussi des gens de très, très haut niveau qui ne connaissent pas forcément. Donc, et en même temps, ce sont eux qui posent leurs questions.
En fait, je les ai préparés vraiment le minimum en leur expliquant dans les grandes lignes ce que chaque séquence racontait ou en tout cas ce qui me semblait intéressant dans les rencontres qu'on allait faire. Et après, je les ai laissés extrêmement libres d'interagir comme ils le voulaient avec les personnes qu'ils rencontraient, ce qui était rendu possible par le fait qu'ils sont déjà très mûrs et qu'ils connaissent bien le sujet, qu'ils ont lu plein de bouquins, et les adultes étaient souvent très désarçonnés, parce qu'en plus ils font beaucoup plus jeunes que leur âge, ils ont l'air d'avoir plutôt 14 que 16, et donc le décalage entre leur apparence physique et ce qu'ils disaient...
Et là, le sérieux, leurs questions.
Le sérieux, et puis la profondeur, la pertinence, enfin ça les... Bon. Et puis, parfois je leur faisais un peu des surprises, c'est-à-dire que comme le but était de les faire traverser des situations et que ça les change, que ça les bouleverse, que ça les touche, il ne fallait pas qu'ils en sachent trop. Donc quand on va dans l'élevage de lapins, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver dans le hangar dans lequel ils rentrent. Ils savent que c'est un élevage intensif de quelque chose, mais ils ne savent pas de quoi. Et donc nous, on s'est positionnés à l'intérieur, on a éteint les lumières, on a briefé l'éleveur, et ils sont rentrés avec lui. On le voit qui, clac, allume dans son hangar. Et on découvre le lieu par leurs yeux, en même temps qu'eux le découvrent. Et les sensations de dégoût, de tristesse, de colère, d'interrogation. Et ça, c'était important. C'est pareil, on les a mis dans un troupeau de brebis pendant une partie de la nuit, avec la perspective que des loups puissent débarquer. Donc il y avait quand même des chiens de protection, une clôture électrique et tout ça.
Et des caméras infrarouges.
Et des caméras thermiques qui les filmaient. Là aussi... Ce qui nous intéressait, c'est évidemment de voir ce que les scientifiques qui étaient autour étudiaient avec leurs caméras thermiques, mais c'était aussi la réaction de Bella Viplan, qui en réalité avait beaucoup plus peur du chien de protection que du loup, mais bon.
Sur en quoi ils avaient raison.
Ils n'avaient pas forcément tort.
Et du coup, le tournage a duré, il a duré sur plusieurs mois, j'imagine, entrecoupé de pauses, c'est ça?
Il a duré 6 mois et demi par période. Et en tout, on a tourné 55 jours. En fait, on faisait des sessions. Donc, on a fait une session en France où on est allé en Normandie, dans le Jura. On a fait une session en Inde, une session au Kenya, une session au Costa Rica, une session en Californie, dont on n'a pas gardé les séquences. Il y a de fortes chances, en fait, qu'on fasse un deuxième film avec tout ce qu'on a coupé. Parce qu'on a 1h40 de séquences qui sont déjà montées et qui sont vraiment super. Mais voilà, faire un film de 3h30, ça passait pas.
Une série?
Oui, mais on n'avait pas non plus envie de faire une série. Moi, j'avais envie de faire un objet qui puisse bouleverser les gens en une fois et dans un cinéma. C'est-à-dire que pour moi, regarder un film sur un écran de télé ou le voir en salle, dans ce dispositif qui est quand même très particulier, où l'écran est énorme, où on est plongé dans le noir, où on a aussi une attention particulière, parce que maintenant, les gens regardent les films avec leur téléphone à côté, avec des notifications, et où on est plongé dans le son. Et on a quand même beaucoup travaillé le son. C'est Cyril Holtz qui a mixé, qui est sans doute un des meilleurs mixeurs du cinéma français. Et Valérie Deloff et Margot Testemal, qui sont deux super monteuses son, elles ont vraiment reconstruit des atmosphères, à la fois dans la nuit, dans le Jura, pour qu'on... on soit plongé là-dedans, dans la forêt vierge au Costa Rica. Et ça, c'est quand même au cinéma qu'on peut le vivre.
Donc vous êtes allé sur tous les continents, évidemment le continent européen et notamment aussi à Bruxelles, où vos deux héros, donc Bella et Vipulan, ont rencontré Claire Nouvian. Hein, c'est une ancienne journaliste, productrice, réalisatrice aussi de documentaires. Elle a fondé l'association Bloom, qui lutte contre la surpêche. Bella et Vipulan la rencontrent au Parlement européen, où elle tente, elle fait du lobbying voilà, pour le bien de commun. Hein. Elle tente d'empêcher le passage d'une loi qui va légitimer la pêche intensive, destructrice des fonds marins.
So we need a new position of the parliament. So yeah, make sure that you
don't worry. Some of your colleagues came and briefed me last week.
Claire Nouvian a créé l'association Bloom en 2005. Tous les jours, elle se bat pour protéger les océans d'une autre cause d'extinction, la surexploitation.
Avec le chalutage en eau profonde, c'est que les navires envoient d'énormes filets lestés qui vont racler les fonds marins jusqu'à 2000 mètres de profondeur. À 2000 mètres de profondeur, en fait, c'est l'obscurité totale. Les animaux vivent et ils croissent extrêmement lentement. Certains coraux ont commencé à se développer alors que nous, les humains, on est en train de construire les pyramides il y a des milliers d'années. Donc, ces structures vivantes, qui sont absolument exceptionnelles, sont détruites en quelques secondes. La pêche en eau profonde, c'est le summum de l'absurdité technologique. C'est la confrontation entre la plus grande vulnérabilité biologique et l'efficacité industrielle la plus radicale.
Voilà, et Vipulan et Bella parlent avec Claire Nouvian et lui posent plein de questions sur comment ça fonctionne, en fait, le Parlement européen, avec les lobbies. 90% du lobbying, en fait, c'est au profit des industriels. C'est ce qu'elle leur explique. Vous les filmez un peu furtivement, ces lobbyistes, à un moment. Et Vipulan et Bella en ressortent totalement secoués, en fait, sur l'exercice, les conditions d'exercice ou de biais enfin, de la démocratie.
Oui, parce qu'en plus, Claire les emmène dans une commission où ils le voient. C'est-à-dire que c'est très difficile quand on va au Parlement européen d'avoir tous les sous-titres, de comprendre ce que le sous-texte même, c'est hein, ce que les gens disent en dessous du texte qui est déclamé officiellement. Et donc pendant cette commission, on voit des députés défendre un certain nombre de positions, on voit la Commission européenne en défendre une autre, c'est-à-dire qu'en gros la Commission européenne vient dire aux députés, nous on a fait des études et des études et des études, et on sait que si vous allouez des subventions à la pêche industrielle, ça va participer à vider les océans. On le sait. On a fait vraiment un milliard d'études sur la question, c'est absolument certain. Et on voit que les députés disent « Mais non, mais nous on veut pas du tout détruire les fonds marins. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer le sort des pêcheurs, mettre des toilettes sur les bateaux. » Et donc, on a là aussi un petit dispositif de mise en scène où Vipulan et Claire Nouvian s'envoient des textos pendant la commission, et où Claire fait le sous-texte. Il dit, en fait, quand il dit ça, en fait, il veut dire ça. Et il y a de fortes chances qu'en fait, les fonds, ils les prennent et ils les siphonnent pour la pêche industrielle. Et donc, elle leur explique, en sortant de la commission, voilà, c'est beaucoup les Espagnols, parce que l'industrie de la pêche en Espagne est massive, et que donc, c'est eux qui, en général, récoltent toutes les subventions européennes. Et donc, Vipulan, à ce moment-là, a l'idée d'aller courser l'assistant parlementaire d'un député espagnol pour lui poser la question. Donc il fait son Élise Lucet, quoi, il dit...
Exactement, oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous prenez cette position-là? En plus, ils sont hyper polis, hyper gentils. Et le type s'enfuit. Mais s'enfuit au point qu'il ne s'arrête même pas pour essayer de leur dire une sorte de bullshit politique. Même pas. Il s'enfuit. Et il prend l'ascenseur. Et on est un peu sous le choc de voir qu'il y a une forme de mépris, de cynisme qui va jusque-là. Qui va jusqu'à ne pas répondre à des ados de 16 ans.
C'est vrai que les enjeux économiques semblent, enfin, c'est des mastodontes, et que les citoyens paraissent pas démunis, mais voilà, c'est un peu le David et Goliath.
C'est une des choses qu'on essaie de montrer dans le film, c'est que c'est vraiment un problème systémique, et que essayer tout le temps de nous remettre sur le dos le fait que c'est parce que on prend trop notre voiture ou que on prend des bains à la place de prendre une douche. Ça tient pas vraiment la route. L'essentiel du problème est structurel. Si on parle que de la problématique de l'eau, par exemple, la consommation des ménages, c'est 9% de la consommation de l'eau sur la planète. Le reste, les 91% qui restent, c'est l'agriculture et l'industrie. Donc oui, c'est bien de prendre une douche plutôt qu'un bain. Mais ce qui est surtout important, c'est de changer la façon dont les industries fonctionnent, d'arrêter cette espèce d'irrigation massive de cultures, par exemple de maïs en plein soleil, avec l'eau qui s'évapore. C'est pareil pour le plastique, c'est pareil pour le pétrole. Enfin bon. Donc, Bella et Vipulane sont aussi confrontés à ça. C'est-à-dire que, au départ, ils se disent bon bah très bien, on va aller ramasser du plastique sur une plage. Et puis au bout d'un moment, ils se disent mais c'est utile, il faut le faire absolument. Mais ce plastique, il continue à revenir tous les jours. Parce qu'on continue à en produire des quantités massives. Donc à un moment, il faut couper le robinet. Et couper le robinet, c'est obliger les industriels à arrêter le suremballage, interdire le plastique à usage unique, etc.
Alors donc, vous le disiez effectivement, par exemple, avec le cas de l'assistant parlementaire de l'eurodéputé espagnol, il trouve porte close. Mais donc c'est difficile hein, de faire parler les industriels. Mais il y en a un, enfin en tout cas un agriculteur, qui a accepté de vous recevoir, de vous ouvrir ses portes, vous l'avez un peu évoqué. C'est un homme qui pratique donc l'élevage intensif de lapins.
Du coup là, ça fait quelle taille par lapin ?
Ça équivaut à peu près la grandeur d'une feuille à quatre. Donc une feuille à quatre
par lapin,
oui.
How do you do this every day when so many are dying and when you see the conditions they're living in? Have you almost desensitized yourself now?
Pour moi, ils sont pas mal traités, ils sont bien, ils ont un confort, ils ont à manger à volonté, ils ont à boire, ils sont dans des températures bonnes, l'ambiance est très bonne. Donc je l'accepte.
Mais Laurent, pour de vrai, tu trouves que là, les lapins vivent dans des bonnes conditions ?
Là, oui. Pour moi, oui. Bon, on pourrait améliorer la chose. C'est ce que j'ai expliqué. On peut améliorer la chose en faisant des parcs beaucoup plus grands. Mais c'est l'investissement qui est très coûteux. Donc...
Et comment vous en êtes arrivé à faire quelque chose comme ça ?
Comment je suis arrivé comme ça ? Mais c'est une passion.
Mais c'est pas une passion d'élever les animaux comme ça, j'imagine.
Mais oui, mais on n'a pas le choix.
Oui, mais...
Tu comprends ?
Ce que je veux dire, pourquoi ? Comment vous en êtes arrivé à faire de l'élevage comme ça et pas faire
eh ben de l'élevage c'est une question de imposée par les coopératives. Et c'est les coopératives, ils veulent. Il y a tellement de monde à nourrir dans le monde entier, il faut produire. Ce système-là permet de produire à des rapidités énormes. Donc, comme il faut qu'on nourrisse la population à un prix, c'est produire pas cher.
Alors Cyril Dion, on comprend avec cet échange que cet éleveur, donc lui, il estime ne pas avoir le choix. Lui aussi est victime des pratiques parce qu'il dit qu'il gagne 350 euros par mois.
Mmh. Oui, c'est ça qui est très fort dans cette séquence, qui est souvent une des séquences qui marque le plus les spectateurs parce qu'il y a déjà un décalage incroyable. C'est-à-dire que Bella et Vipulane, ils rentrent là-dedans, ils sont jeunes véganes, urbains, et ils sont confrontés à une réalité qui leur paraît absurde. Et cet éleveur qui est très gentil en plus, qui leur explique vraiment de façon simple, presque bonhomme, la façon dont ça marche, et qui parle à partir de sa réalité à lui. Qui dit oui, bah, l'ambiance est très bonne, mais quand on est là-dedans, en plus, là, on voit l'image, mais nous, on avait les odeurs, c'est quand même assez violent. On se dit, mais c'est pas possible. Donc ça crée à la fois un peu de la comédie. Donc souvent, il y a des rires dans les salles au début de cette séquence, des rires un peu gênés, mais des rires quand même. Et puis des jugements. Et puis au bout d'un moment, il y a une sorte de bascule qui s'opère parce que, effectivement, il explique qu'il gagne 350 euros par mois, qu'il est incapable de vivre avec ça, donc qu'il est obligé d'avoir des avances de trésorerie de la coopérative pour lui permettre de vivre. Que pour rembourser ses avances, il doit leur donner de plus en plus de lots de lapins. Et donc, qu'au bout d'un moment, son élevage lui appartient quasiment plus et qu'il ne peut plus s'arrêter. Et là, on commence à être dans une sorte d'empathie avec lui en se disant « mais il est en cage avec ses lapins, en fait, cet homme-là ». Et ce système qui, justement, cherche à produire pas cher, le plus vite possible, il a des conséquences sur le climat, il a des conséquences sur la biodiversité, il a des conséquences sur le bien-être animal, mais il a des sacrées conséquences sur les humains. C'est une forme d'oppression pour lui aussi, comme les gens qui travaillent dans les abattoirs, c'est assez terrible.
Avec l'absurdité supplémentaire du gâchis alimentaire, paraît complètement fou. Alors je sais qu'on a l'Union européenne a réformé la PAC ces derniers jours, mais sans remettre forcément en question le modèle intensif.
Non. En fait, là, il y a 25% des aides qui sont conditionnées à des pratiques environnementales plus exigeantes. Donc ce qui veut dire que 75% des aides ne le sont toujours pas. Et on est toujours dans l'idée d'avoir une productivité importante. C'est important, hein. Je veux dire, c'est important de pouvoir nourrir les gens, de ne pas avoir de rupture dans les chaînes alimentaires et tout ça. Mais justement, j'ai dialogué avec Christiane Lambert, qui est la patronne de la FNSEA, qui est le plus grand syndicat agricole en France pour l'OPS. Et j'essayais de... Elle, à un moment, elle me disait, mais vos jeunes, là, ils cherchent des solutions, vous leur en donnez aucune. Et je leur dis, ben si, la solution, là, c'est clairement de manger moins de produits d'origine animale. Parce qu'on sait que l'ADEME, par exemple, a calculé que chaque Français, en moyenne, mange 107 grammes de viande par jour. Pour manger 107 grammes de viande par jour, ça demande en moyenne 4300 mètres carrés sur la planète de culture par personne et par an. Si vous êtes végétarien, vous diminuez par 3 la surface qui est nécessaire pour vous nourrir. Donc en diminuant cette surface par 3, non seulement ça peut libérer de la surface pour nourrir plus de gens, mais ça peut aussi nourrir de la, libérer de la surface pour le monde sauvage. Justement pour arrêter de détruire les habitats de tout un tas d'espèces qui nous sont aussi extraordinairement utiles pour pouvoir continuer à vivre.
Et pour autant, vous disiez, hein, Bella et Vipulan sont véganes. Pour autant, le film ne fait pas la promotion du mode végan. D'ailleurs, à un moment, vous allez vous filmer dans une ferme qui montre comment tout peut fonctionner ensemble en écosystème. C'est plutôt du flexitarisme.
Bah, on a surtout cherché à montrer que ce n'était pas manichéen, que ce n'était pas noir ou blanc et qu'il n'y avait pas une solution définitive. Donc effectivement, on montre l'absurdité de l'élevage industriel et on met en lumière que manger beaucoup moins de produits d'origine animale, c'est important. Mais à la fois, on va dans une ferme en permaculture en Normandie, qui est vraiment exceptionnelle, qui est en bio, pas de produits chimiques, pas d'engrais, même pas de machines, donc pas de pétrole. Et donc Bella et Vipulan sont éberlués, quoi, en disant « c'est le paradis ici ». Et Perrine, l'agricultrice, leur dit ben, « Nous, pour pratiquer ce type d'agriculture, on a besoin d'avoir un peu d'élevage. » Et donc, je sais que le véganisme est très à la mode en ce moment, mais nous, on a besoin des animaux pour fertiliser les sols, pour ouvrir des espaces, pour les entretenir. Et si on ne les avait pas, on serait bien embêtés. Et donc là, ça recrée à nouveau de la complexité. On se dit « Ah, ben, flûte, c'est pas si simple. » On pensait avoir une réponse toute faite, et puis en fait, non.
Est-ce que pour le véganisme... peut-être rappeler, c'est évidemment de ne pas manger de produits d'origine animale, mais de même pas consommer ou utiliser tout ce qui vient de l'exploitation des animaux, donc pas de miel.
Le véganisme, c'est être vraiment contre l'exploitation des animaux sous toutes leurs formes. Donc effectivement, on ne mange pas de produits d'origine animale, aucun, même pas des œufs ou du fromage comme les végétariens. On ne porte pas de cuir, on ne mange pas de miel et on est contre l'élevage globalement.
Cyril Dion, il y a 10 ans, j'ai un peu l'impression qu'il y avait encore des personnes qui disaient que le réchauffement climatique n'existait pas. Là, maintenant, on en trouve plus trop.
Mais on en trouve un peu aux États-Unis.
Et est-ce que les révisionnistes climatiques, ben, ils ont changé de discours et maintenant, leur récit, puisqu'on parle aussi de récit, oui, c'est de dire que finalement, on a le temps, qu'on va trouver des solutions technologiques, ou qu'on va trouver, d'autres sources d'énergie.
En fait, il y a vraiment des gens qui sont profondément climato-sceptiques, c'est-à-dire qui ne croient pas que le réchauffement...
Toujours pas.
Alors, qui ne croient pas qu'il y a un réchauffement.
Mais c'est un peu une posture politique, non ? Je pense au Brésil ou aux États-Unis.
Justement, ça dépend lesquels. C'est-à-dire qu'il y en a, qui le croient vraiment, c'est-à-dire qui pensent qu'il n'y a pas de réchauffement, ou il y en a qui pensent que le réchauffement n'est pas d'origine humaine, que c'est des variations qui ont toujours existé, que c'est le soleil. Et puis, il y en a qui n'ont pas intérêt à admettre qu'il existe. On a entendu parler récemment de Total qui, pendant des décennies, a semé le doute dans l'opinion publique en finançant des études qui disaient « Oui, alors est-ce que c'est vraiment les humains ? On n'est pas sûr. » Exxon a fait pareil, BP a fait pareil, Shell a fait pareil. Et ça, c'est des gens qui, effectivement, sont en train un peu de changer de discours. C'est-à-dire que c'est plus tellement possible de dire que ça n'existe pas. Donc maintenant, ils disent « Si, bien sûr, ça existe, mais on a la solution, qui est une solution technologique. » Et ils ont créé une espèce de nouvelle frontière qui est... Alors, il y a les vrais écolos et les faux écolos. C'est-à-dire, les faux écolos, c'est les gens comme moi, c'est des gens qui sont dogmatiques, c'est une religion pour l'écologie, etc.
C'est retour à la lampe à huile, les décroissants.
C'est la lampe à huile et tout ça. Et nous, on est les vrais, c'est-à-dire qu'on est des écologistes pragmatiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les solutions, donc le nucléaire, les OGM. Donc ça, c'est les vrais écolos, maintenant. C'est nouveau, ça vient de sortir.
Alors, à l'image de Bella et Vipulan, le spectateur ressent différentes émotions en regardant le film. La culpabilité de ne rien faire ou pas assez, de polluer, de prendre l'avion. la colère, notamment devant ces images de mines de charbon pour lesquelles on abat des forêts millénaires aux États-Unis, en Allemagne. Et puis quand même aussi l'émerveillement devant les beautés de la nature. Par exemple, la fourmilière dans la savane africaine ou alors ce passage dans le Jura et l'observation de la nature.
On a perdu une attention, une vigilance à l'égard des autres formes de vie. Et c'est lié à une culture qui nous a fait croire qu'on était les seules formes de vie intéressantes. Et que le reste autour, cette prairie, cette forêt, la sapinière, les oiseaux, les fourmis, c'était de la matière bête et méchante. Et le grand enjeu, c'est de se réensauvager nous-mêmes, c'est retrouver le sentiment que le monde vivant nous a fait. C'est pas nous qui l'avons fait. Et on y appartient comme des manières d'être vivant particulières. On est des animaux étranges, mais parmi d'autres. Et il faut que, aussi spontanément que vous êtes capable de distinguer les marques de chaussures de sport, vous soyez capable de reconnaître des insectes, pour que vous soyez aussi fasciné par le comportement d'un oiseau que vous l'êtes par une série télé.
Voilà, hein. C'est vrai qu'on se dit qu'un adolescent occidental, Cyril Dion, eh ben, il sait reconnaître les derniers modèles de basket, mais pas toutes les essences d'arbres.
Non, mais les adultes non plus. Hein. Moi, je me suis rendu compte que j'étais assez nul aussi. On a eu cette discussion-là avec Baptiste Morisot. Lui, il cite l'introduction de son livre « Manière d'être vivant », une étude américaine qui montre que dans les quartiers défavorisés des grandes villes, les jeunes ont carrément un seul mot pour dire « arbre ». Un seul mot pour dire oiseau, pour désigner tous les oiseaux. Bah oui, ça c'est un oiseau. Oui, mais bah, c'est quel oiseau? Bah c'est un oiseau. Bon. Et en revanche, effectivement, ils savent reconnaître des centaines ou des milliers de logos, de marques. Et ils nous disaient, c'est normal parce que c'est ça qu'ils fréquentent au quotidien, dans leur vie. En revanche, les oiseaux, ils les fréquentent pas trop. Ils ont aucune conscience de déjà quel oiseau c'est, quel est leur chant, quelles sont leurs mœurs. Et si on ne retourne pas fréquenter, il y a peu de chances qu'on ait envie de protéger ou qu'on ait envie de s'y intéresser. Donc il y a plein de moyens de le faire, même avec la technologie. Hein, il y a une application qui est super, qui s'appelle Cuicuimatique, qui est une sorte de Shazam des oiseaux. Donc vous allez en dessous d'un arbre où il y a des oiseaux et ils vous disent ce que ça peut être en vous permettant d'écouter les chants de ces différents oiseaux. Et donc c'est rigolo en plus parce qu'on peut
on découvre
jouer à les reconnaître, quoi. Mais au-delà de ça, on apprend aussi à découvrir qui sont nos voisins. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir un jardin et j'ai des grands arbres dedans. Et donc, Baptiste me disait, mais tu ne sais même pas qui habite dans tes arbres, enfin dans les arbres en tout cas, qui sont dans ton jardin.
Et maintenant, vous le savez.
Et bien maintenant, je le sais.
Mais est-ce qu'on ne parle pas aussi un peu d'un, je ne sais pas comment le dire autrement, mais d'un appauvrissement de l'humain?
Bah si, complètement. Enfin, d'un appauvrissement de notre sensibilité, déjà. Baptiste Morisot, encore lui, parle de crise de la sensibilité. C'est-à-dire du fait que le fait d'avoir chosifié un peu tous ces êtres vivants, ça ne nous encourage pas à rentrer en relation avec eux. Et ces relations, elles sont extrêmement riches, à la fois de sens, d'affect. On l'a vu quand on est allé au Costa Rica, dans des forêts qui ont été replantées sur des pâtures. C'est très impressionnant parce qu'on nous a emmenés dans des endroits où c'était des pâtures, donc où il y avait des bovins. Et 40 ans plus tard...
C'est de la monoculture, en fait.
Ouais, ouais. 40 ans plus tard, c'était des forêts vierges. Donc c'était incroyable. Et comme pendant 40 ans, on a laissé totalement tranquilles les animaux qui vivent là, ils n'ont pas du tout peur des humains. Donc on a pu les filmer, on était à 5 heures du matin sur des petits chemins et tout d'un coup on voyait traverser un tapir, on voyait passer un toucan ou des singes hurleurs.
Oui effectivement, et on est super étonné quand on voit votre film parce qu'ils n'ont pas peur de vous.
Ils n'ont absolument pas peur parce qu'ils n'ont jamais vu de chasseurs. Donc pour eux les humains ne sont pas une menace.
Un prédateur.
Ben non. Et ça, c'est vraiment, justement, vous parliez d'émerveillement, c'est ce qu'on voulait aussi que les spectateurs puissent ressentir pour avoir l'envie de retourner fréquenter le monde sauvage. Et de se dire, on cherche tout le temps de la magie, y compris à travers les films, je sais pas, Harry Potter. Mais la magie, elle est à portée de main. Elle est vraiment là, elle est pas loin. Simplement, on a besoin de personnes qui nous emmènent et qui nous permettent de rendre ces paysages un peu intelligibles, qui nous expliquent, qui nous montrent les choses, qui nous encourage justement à découvrir quels sont les animaux qui vivent là, quelles sont leurs relations, pourquoi est-ce qu'il y a des feuilles qui tombent par terre et comment elles deviennent de l'humus, et de gratter en dessous et de voir qu'en fait il y a plein de vers de terre, parce que c'est des bactéries qui elles-mêmes font des champignons, qui permettent aux arbres de se nourrir. Enfin, tout ça est extraordinaire, mais si on nous l'explique, c'est-à-dire que si on passe à côté comme ça, c'est les enfants qui disent « Oh, c'est chiant, on va en forêt », parce que rien n'a de sens. Bernard Lavilliers.
Ah, vous avez reconnu une pause musicale, oui, c'est la nouveauté.
En fait, on m'a proposé de faire le clip de cette chanson.
Le cœur du monde.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés.
Je citais Yoval Harari en début d'émission, hein, qui parle d'Homo sapiens et de l'art du récit. C'est aussi ce qui guide votre action, le fait qu'on a besoin de contre-récits.
Ah bah, moi, je partage pleinement avec Yuval Harari ou avec Nancy Houston ou avec George Marshall cette idée que les humains sont des raconteurs d'histoires. Enfin, je veux dire, raconter des histoires, c'est Nancy Houston qui dit ça, c'est notre façon d'être au monde. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à percevoir la réalité par bribes. C'est-à-dire qu'on est comme dans le mythe de la caverne de Platon, c'est-à-dire qu'on voit des parties de la réalité et on essaye de les assembler en leur donnant un point de vue particulier, en leur donnant du sens. Et ça construit des récits, des histoires. Et c'est à travers les histoires qu'on peut partager avec les autres humains notre vision du monde, notre subjectivité. Et quand ces histoires deviennent suffisamment largement partagées, c'est ce que raconte Harari dans Sapiens, ça devient potentiellement des religions, des systèmes politiques, des systèmes économiques. Ce dont on parle, par exemple, dans Animal, qui est cette obsession de la croissance économique, c'est purement une fiction.
Voilà,
c'est un récit. C'est une entente.
Alors que certains disaient qu'il n'y a pas d'alternative.
Mais
bien sûr qu'il y en a.
Mais bien sûr qu'il y en a, puisque c'est une convention. C'est-à-dire que c'est les humains qui ont élaboré ce système. Donc si c'est les humains qui l'ont élaboré, ils pourraient en élaborer un autre. Et donc aujourd'hui, pour moi, le but, c'est de prendre conscience déjà que nous vivons dans des récits, que ces récits ne sont pas la réalité, qu'ils ne sont pas immuables, et que donc nous avons la possibilité de proposer d'autres récits, d'autres possibles, d'autres futurs possibles. Et Animal cherche à faire ça, cherche à ouvrir une brèche en disant, dans ce récit de la croissance, d'une certaine manière, c'est un peu comme si on était dans un train qui est lancé à 300 km/h qui fonce sur une montagne, quoi. Le but, c'est pas de rester dans le même récit, c'est-à-dire c'est pas de ralentir le train à 250 km/h. Le but, c'est de changer de train, de changer de destination, de changer d'histoire. Et cette nouvelle destination pourrait être, en tout cas c'est ce qui émerge un peu du film, défendre le vivant, défendre la vie finalement. C'est ce que dit Éloi Laurent, qui est cet économiste qu'on interview, qui est prof à Stanford et à Sciences Po, qui dit finalement les nouveaux indicateurs pourraient être des indicateurs de santé. Parce que ce qui est le plus important pour tous les humains quand on leur pose la question à travers le monde, c'est d'abord la santé. Et on l'a vécu de plein fouet avec la pandémie.
Donc vous devez être un peu accablé pour le moment, mais évidemment la campagne électorale ne fait que commencer. Mais de voir que la campagne électorale en France, loin de se focaliser sur la question de la santé, de l'hôpital ou des liens sociaux, elle se focalise sur d'autres sujets comme l'immigration, j'imagine.
Oui, je suis un peu accablé. Je suis pas complètement surpris et je trouve des justifications ou en tout cas des confirmations de ma théorie dans cette campagne présidentielle, parce que ce que fait Éric Zemmour par exemple, ce n'est rien d'autre que construire une fiction, raconter une histoire. Et à partir de cette fiction, essayer d'enrôler le maximum de gens possible en allant toucher des affects qui sont particulièrement sensibles et qui ont des précédents. Et justement, le but est de ne pas se laisser embobiner par ça et de comprendre que ce sont des fictions. Mais globalement, les élections présidentielles, telles que c'est pratiqué, c'est un concours de fiction, hein, c'est un concours d'histoire. Emmanuel Macron, aux dernières élections, disait, je ne sais plus, c'est un journaliste qui lui disait, mais quand est-ce que vous allez dévoiler votre programme ? Il disait, mais c'est pas avec un programme qu'on gagne les élections. Lui, il a gagné les élections en racontant une histoire qui était ni droite ni gauche, la rupture, je suis jeune. Ouais. Mais c'est à nouveau une histoire.
Cyril Dion, merci. Animal sort en salle mercredi prochain, 1er décembre. Demain était sorti en salle un 2 décembre. Mmh. Vous êtes un peu superstitieux ou c'est un hasard total ?
En fait, le film était daté pour le 9 décembre, ceci dit 2020, après 24 mars 2021, après 24 novembre. Donc c'est plutôt la pandémie qui nous repousse. Après, peut-être qu'on peut y voir un bon signe, une bonne étoile.
Cyril Dion, merci. Je rappelle le titre de votre film, Animal, dont le DVD est commercialisé à partir de mercredi prochain. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie de Michael Herz qui nous commentera les premières minutes de son nouveau film Les Passagers de la Nuit. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde sur RFI. Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéré.